Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on retrouve les menstruels pour une émission spéciale, faire le plein d'amour. Loin des histoires à l'eau de rose, des contes de fées et des comédies romantiques, cette sélection sonore, toute subjective et sensible, nous parle de notre rapport à l'intime. Des fragments d'interviews enregistrés avec soin dans une recherche de paroles vraies, les paroles du cœur, celles qui ont du grain et du relief, celles qui rappent ou adoucissent. Celles qui nous font sentir vivantes. Une immersion au cœur de nos histoires de cœur et de corps, à la fois personnelles, universelles et politiques.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, Visionne. Substantif.
Qui a rapport au menstru.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin. Presse clandestine.
Domaine des sensations. Domaine
de. Les filles sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12
qui
ans.
Qui existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des
ballons,
lois établies.
Mine, vitres qui
l'abondance
éclatent.
De cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche.
Des gamins
de procédure normale et lycée.
Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présidents.
Surtout en Espagne et en Italie.
Matin, le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène.
Il
ne serait pas du cavalier
d'un choc ou d'un changement
de l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotylisme.
En parlant d'un animé
menstruel fréquent.
Entre parenthèses, Rossignol, dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901, page 24.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Les menstruels présentent faire le plein d'amour. Une série d'interviews concoctées par Margot Séon.
Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023. Je m'appelle Anaïs et j'ai 40 ans. J'ai grandi dans les Deux-Sèvres, un département dans le Poitou-Charentes, essentiellement avec ma mère, puisque mon père est parti quand j'étais toute petite, qui a refait sa vie. Donc du coup, j'ai grandi avec un modèle familial hétérosexuel. Après, j'ai eu un petit frère à l'âge de 10 ans, donc ça a aussi changé pas mal ma vie. Et après, j'ai découvert la sexualité, on va dire, primaire et collège. Voilà, où j'ai embrassé le premier garçon en CE2. Et après, j'ai embrassé ma première fille au lycée. Moi, je suis de la génération des années 90, donc c'était vraiment le modèle hétéro d'Hélène et les garçons et le premier baiser. Donc c'était vraiment ça, moi, mes premiers modèles, qui ne ressemblaient pas forcément à ce que moi je ressentais comme attirance des hommes ou des femmes, quoi. Je m'en suis rendu compte au collège, en fait, parce qu'en 6e, 5e, tu sais, t'es invité pour les booms. Les après-midi, je sais pas si tu connais le jeu de la bouteille, où on se met les uns en face des autres, on tourne la bouteille, et puis voilà, donc forcément c'était les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et en fait, moi ça m'attirait pas trop d'embrasser les garçons, donc je voyais mes copines faire, donc je faisais un peu pareil. Mais je me suis rendu compte assez rapidement, en 4e ou en 3e, qu'en fait c'était les filles qui m'attiraient, et j'avais plutôt envie d'embrasser les filles lors des booms ou après des premières soirées. Que les garçons. Ben, je suis tombée amoureuse d'une nana et c'était réciproque. Donc là, j'avais 18 ans, je crois. Et c'était aussi encore une copine d'un de mes potes. Putain, ça craint. Et en fait, là, il y avait vraiment, c'était vraiment réciproque et tout. Et on est sortis ensemble pendant un an, enfin avec des hauts et des bas. Et ma mère me trouvait différente. « Ah, mais je te trouve différente, je te sens bien en ce moment, qu'est-ce qui t'arrive, quoi, tu vois ?» Et là, je dis à ma mère, « Bah oui, en fait, je crois que je suis amoureuse, quoi. » Elle me dit, « Ah, mais trop bien, il s'appelle comment ?» Ben, elle s'appelle Anne-Laure. Ah, donc là, ma mère restait un petit peu bouche bée. « Ah bon, d'accord, bon, bah écoute, si t'es heureuse, tant mieux, mais je serai jamais grand-mère, quoi. » Et là, j'ai dit à ma mère, mais maman, je suis homo, je suis pas stérile, quoi, tu vois. Puis moi, j'étais pas du tout dans cette perception d'avoir des enfants. Enfin, tu vois, je découvrais ce que c'était l'amour. Donc, c'était chaud, là. Et j'ai commencé à dire que j'étais bi. Pour toujours rester, tu vois, à pied dans cette putain de normalité hétéro où la différence fait peur, quoi, tu vois. Et je voyais pas autour de moi des filles qui pouvaient aimer des filles aussi. Donc j'ai commencé à dire à mes potes qu'en fait j'étais attirée par les filles, mais que j'étais toujours attirée par les garçons, tu vois. C'est con, hein. Et puis voilà, j'ai commencé à le dire au fur et à mesure. Donc je suis bien restée à dire, ouais, jusqu'à mes 19 ans, que 20 ans, que j'étais bisexuelle en fait. Et après, à 20 ans, quel âge je prends, 22. À 22, j'ai quitté les Deux-Sèvres et je suis allée à la ville pour vraiment assumer mon homosexualité. Je me sentais pas à l'aise de ramener une fille chez ma mère, tu vois, même si je pense que pour elle, elle était tolérante, mais en fait, moi, je me le sentais pas. J'assumais pas. Moi, mes références, elles sont télévisuelles. Mes références, ma première référence, ça va être le film Gazon maudit avec Josiane Balasco, tu vois. Et après, il y a eu le coming out d'Amélie Mauresmo, la tenniswoman. Mais ça, c'était le truc de dingue. Tu vois, on n'en parle pas de l'homosexualité ou alors dans des films de comédie, tu vois. Et là, tu vois cette nana qui gagne ce tournoi, qui est à la télé, qui salue son adversaire, qui salue l'arbitre. Elle pose sa raquette et elle va dans le public et elle roule une pelle à sa nana, quoi, tu vois. Et moi, j'étais là, mais en fait, c'est normal, c'est possible. Tu vois, Anaïs, tu peux le vivre, ça, ici. Et en fait, je me disais, mais je peux pas le vivre dans les Deux-Sèvres, quoi. Je ne sentais pas la force et je pense que le regard des autres et par rapport à ma mère, tu vois, qui sans doute était dans une culpabilité que si t'es homo, c'est à cause de moi. C'était en 2009, donc j'avais 26 ans. Et je me suis inscrite sur des sites lesbiens, je sais même plus comment ça s'appelle, Gayvox ou je sais pas quoi. Et donc j'ai rencontré des filles dans des bars à Toulouse. Donc soit ça matchait, on passait la soirée ensemble et après on passait la nuit ensemble, soit ben on passait un bon moment et puis il n'y avait pas de feeling et puis voilà quoi. Et après j'ai vécu ma première gay pride. t'as une énergie sexuelle, je trouve, dans la foule, quoi, entre tous les gens, c'est incroyable. Donc là j'ai rencontré une autre nana aussi, une artiste, je sais même plus comment elle s'appelle. Puis après, je me suis inscrite sur Mythique. Et donc là, j'ai rencontré mon ex, Mylène, avec qui on est resté 13 ans. Donc elle était sur Tain-l'Hermitage, moi j'étais sur Toulouse et on s'est donné rendez-vous à Montpellier. Donc moi, j'ai quitté le boulot à 22h et je suis arrivée à Montpellier à minuit. On s'est vus à minuit, j'ai acheté une petite bière, on s'est partagé la bière et puis à 2h du mat, bon ben... Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, elle me dit, si tu veux, je te ramène chez moi. Ah oui, c'est où? Dans la Drôme? Ok, à 2 heures de route. Bon, allez, c'est parti, quoi. Arrivée chez elle, j'avais même pas prévu un petit sac pyjama. J'avais prévu un petit sac, mais j'avais même pas de pyjama, quoi. Tu vois, j'étais là. Bon, ok. Et puis, en fait, on a passé la nuit ensemble, on a passé le week-end ensemble. C'était super. Le dimanche, elle m'a raccompagnée à ma voiture. Je suis rentrée à Toulouse. Et puis, et après, on s'appelait beaucoup. Je venais de temps en temps le week-end dans la Drôme. Elle venait aussi à Toulouse. Donc ça a duré pendant 4-5 mois. Après, mon contrat s'est terminé. Je suis venue dans la Drôme pour bosser 15 jours, 3 semaines en remplacement et puis voir si dans la vie quotidienne, la vie à deux, ça allait bien se passer. Et ça s'est très bien passé. Donc du coup, 9 mois après, je lâchais mon appart à Toulouse et je m'installais chez elle. Donc voilà, c'était très clair. Moi, je me sens bien avec elle, on y va, quoi. Et donc après, on s'est installés ensemble et voilà. On a acheté une maison. Et après, on a revendu la maison parce qu'elle était très angoissée de par l'achat de la maison. Et puis, on a subi pas mal d'événements climatiques entre les grêles, tu vois, les inondations. Et c'est vrai que la maison, il y avait quelques merdes et ça, c'était difficile pour elle à gérer. Et en même temps que l'achat de la maison, on s'est paxé. Et puis, on est revenu en location. Et puis, en fait, notre amour a commencé à s'effiler, quoi. Enfin, Et puis elle a rencontré des difficultés personnelles aussi de son côté. Moi, j'ai eu du mal aussi à me positionner, où j'avais plus l'impression d'avoir une place de compagne, en fait. Je sais pas trop comment décrire cette place, mais en tout cas, je n'écoutais plus mes désirs ou mes envies. Tu vois, je savais qu'elle était mal. Donc, quand elle me posait la question, tu veux manger quoi, chérie? Ben, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux que j'aille faire des courses? Enfin, tu vois, je faisais tout pour qu'elle soit bien. Et puis après, on baisait plus, quoi. Et puis, il n'y avait plus de sexualité. Et ça a été aussi très dur pour moi, parce que j'ai perdu confiance en moi. Je me sentais plus belle, j'avais plus envie de prendre soin de moi, enfin... Tu vois, et puis moi, les quelques fois où j'avais envie, j'avais pas envie de lui mettre la pression. Donc voilà, et puis parfois, j'avais pas forcément envie de baiser juste parce qu'il est 22h30 et qu'on va se mettre au lit, en fait. Et en fait, c'est le fait de ronronner, là, qui m'a questionnée. Donc on a fait pas mal de breaks, d'un mois, 15 jours, on en a fait plus d'un en 2 ans. Et puis là, cette année, en début d'année 2023, j'avais déjà mes 40 ans qui approchaient et j'étais là, putain, Anaïs, t'arrives à la moitié de ta vie. Est-ce que la vie d'aujourd'hui, elle te convient? Est-ce que t'es heureuse? Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et donc là, j'ai décidé de refaire un break. Et en fait, à la fin du break, j'ai dit que c'était fini. Donc beaucoup de gens autour de moi, ça a été la surprise, en fait. Parce que pour nos amis, Anaïs et Mylène, c'était le couple solide, machin. J'ai même des copines hétéros en couple avec des mecs qui me disent « Mais jamais je vivrai comme vous vivez votre couple au quotidien, de par vos attentions, de par ce qu'on soit deux femmes peut-être, ou je sais pas, mais on était vraiment... Enfin, je pense qu'on était loin d'être le couple sur qui on parlait, sur la séparation, quoi. Et là, je suis en train de redécouvrir une sexualité que je ne connaissais pas. En fait, moi je suis sortie avec beaucoup de filles où j'étais la première fille et je suis assez peu sortie avec des homos et là je suis sortie avec une homo qui avait beaucoup d'expérience et où je me suis sentie libérée sexuellement et ne pas me sentir jugée en fait, tu vois. Et là, mon partenaire actuel... Alors, c'est une femme cisgenre, mais qui se genre au masculin. Donc, c'était un petit peu particulier au début quand on s'est rencontrés, parce que pour moi, c'était elle. Et en fait, dans nos échanges, il m'a dit qu'il se genrait au masculin, tu vois. Et au niveau sexualité, il m'apprend plein de choses, en fait. Et il y a beaucoup de choses que je ne pensais pas que j'allais prendre plaisir et qu'en fait, je prends plaisir. Genre, alors, la première fois qu'on a couché ensemble, c'était à Aurillac. Tu vois, donc on s'est rencontrés au festival d'Aurillac. Mais moi, je l'avais même pas repéré, en plus. Moi, pendant 3 jours, j'étais à Aurillac. Ouais, je vais sortir avec des nanas. Le mercredi passe, le jeudi passe, le vendredi passe. Pas de rencontre, tu vois. Donc, le samedi, c'est bon, à l'arrache. Tu vois, je me suis mis un petit peu de noir sur les yeux, mais rien du tout, quoi. Et donc, je la vois, elle, dans la foule. Donc, je sais pas, on discute, machin. Je lui offre une bière, le feeling passe bien. Et après, elle m'offre une bière et tout, donc super. Et après, je l'ai invitée dans ma toile de tente. Et en fait, donc j'ai... qu'est-ce qu'il me disait? J'ai squirté, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, je ne connaissais pas, mais donc j'ai flaqué, j'ai éjaculé. Et c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Donc, gros malaise pour moi. Genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vois, je lui ai dit d'arrêter. J'ai senti un truc mouillé entre mes cuisses. J'ai regardé, grosse flaque sur le drap et tout. J'étais là, waouh! Et il m'a dit, non, mais en fait, t'as juste éjaculé. Ah bon, mais nous, on éjacule, les filles, tu vois? Et il dit, je dis, bon, toi, t'as l'air super à l'aise. Bah oui, c'est pas la première fois que je couche avec une femme qui éjacule, quoi. Je dis, d'accord. Je dis, mais comment ça se fait que moi, ça m'est jamais arrivé, que ça m'arrive maintenant? Et tu vois, il m'expliquait du fait de comment il met ses doigts à l'intérieur de mon vagin. Ben, ça va titiller des glandes et qu'à un moment donné, les glandes vont grossir. Et à un moment donné, ça flaque, quoi, tu vois. Donc, j'ai fait ça. Et c'était excellent. Et du coup, j'étais là, mais ouais, tu t'y connais vachement en sexualité et tout ça, machin. Il me dit, tu pratiques la strangu? Je dis là, mais c'est quoi la strangu? La strangulation. Alors moi, j'étais là direct, mais il m'étrangle, enfin, tu vois. Ben oui, c'est en fait un phénomène un peu d'étouffement où tu serres la gorge et que tu donnes du plaisir, enfin, pour que le plaisir et la jouissance, l'orgasme puissent être plus grands. Donc moi, j'étais là, non, mais pas du tout. Moi, en plus, tu repenses au truc de l'école où, tu vois, tu fais un peu flipper. En fait, on a continué à se voir. Et donc, je l'ai étranglé pour la première fois il n'y a pas si longtemps. Et j'ai vraiment vu que son visage, c'était pas la même, quoi. Qu'il y avait vraiment un plaisir qui arrivait, quoi. Donc, je découvre tout ça. La fessée. et puis après, d'utiliser des toys aussi. Et en fait, je me sens pas du tout jugée ou, tu vois... Et même quand on fait l'amour ensemble là et qu'il se masturbe en même temps, ça me gêne pas, en fait. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pu, tu vois, me vexer, genre, je te donne pas de plaisir, t'es obligé de te masturber en même temps. Alors qu'en fait, c'est pour compléter l'accès au plaisir, en fait. Donc il y a vraiment cette connexion. Je veux dire, c'est une femme cisgenre, donc qui a une poitrine, tu vois, qui a une chatte et tout. Et en fait, je lui dis qu'il est beau. Je lui dis pas qu'elle est belle. Je lui dis qu'il est beau, quoi. Tu vois ? Il me dit pas « lèche-moi », il me dit « suce-moi ». Enfin, tu vois, dans ce vocabulaire-là, qui n'était pas du tout dans ma bouche. Donc, je te raconte pas, là, quand j'ai commencé à dire à mes copines que j'avais rencontré quelqu'un, « ah bon, elle s'appelle comment ? Il s'appelle machin, quoi, tu vois ?» Et je me rends compte qu'aujourd'hui... si je dois être avec quelqu'un longtemps, sérieusement et m'investir, la sexualité aura vraiment une place importante pour moi. Parce que j'aime ça, quoi, en fait. Mais ça me fait du bien. Donc, et je suis prête aujourd'hui à découvrir, mais c'est moi qui décide, par contre. Tu vois, si j'ai envie de prendre un toy, ben, on utilise un toy, quoi, tu vois. Mais, et c'est ce que j'apprécie avec mon partenaire actuel, c'est qu'il me questionne beaucoup, tu vois. Si j'ai envie, si je suis d'accord, c'est, tu vois, est-ce que je peux me mettre derrière toi ? Est-ce que tu peux te mettre sur moi ? On est beaucoup aussi dans à se poser la question pour pas braquer l'autre, quoi. Et puis, ouais, je pense que le fait d'avoir 40 ans, là, j'ai qu'une envie, c'est de vivre des expériences et de me sentir vivante. Il habite pas dans la Drôme, quoi, tu vois. Il est à Paris. Donc, relation à distance encore, tu vois. Mais on se fait des sextos. Et on se fait des vocaux aussi, enfin plutôt moi, lui pas trop. Donc voilà, c'est aussi un autre plaisir partagé, où lui peut se branler sur mes audios par exemple. Avec Mylène, quand on était en relation à distance, je lui envoyais pas des sextos comme ça ou des vocaux hyper chauds, quoi. Il était plutôt rangé. Alors que là, avec lui, il est chaud bouillant et tu vois. Et en fait, je me sens hyper à l'aise. Et je sais que lui, ça l'excite et ça lui donne du plaisir. Donc, je prends beaucoup de plaisir à le faire.
Alors, je suis Charlotte et j'ai 38 ans. On est le 23 octobre 2023. En fait, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser, je les ai jamais vus s'aimer. Par contre, je me souviens d'être au téléphone en disant mon père qui me dit « tu dis à ta mère que... » nanana, et ma mère qui dit « tu dis à ton père qu'il faut qu'il rende les clés de la maison parce que... » Voilà, ce genre de choses. C'est un peu ça les bases avec lesquelles je suis partie. J'ai le souvenir d'être amoureuse dès toute petite des copains de mon père. Parce que je les voyais pas du tout ensemble, mais mon père, on avait une maison à la campagne qui est une sorte d'image comme ça qui me reste. Et mon père, il avait des groupes de musique. Et j'étais très amoureuse du batteur, j'étais très amoureuse, petite, donc je montais sur les genoux des copains du papa et tout ça, c'était toujours, voilà. Donc ça, je me souviens de ça. Oh, je pense que j'avais 5, 6 ans. Et après, je suis sortie avec un des copains de mon père, donc finalement, j'ai bouclé la boucle. À 27 ans. Et donc, lui, il en avait 54, voilà. C'était le 14 juillet en Dordogne. Et puis bon, on avait eu l'autorisation exceptionnelle d'aller sur la plage le 14 juillet avec ma copine Sophie. Et j'avais rencontré un mec, je pense que j'étais chaude, quoi. J'avais envie, quoi. Je pense que voilà, il y avait un truc. Quoi. Et donc je vais sur la plage et je rencontre Tommy, un Anglais. Et puis je lui dis, ah, on est dans ce gîte-là et tout ça. Puis après, couvre-feu, hein, il faut que je... Et il me dit, ah, mais je connais bien ce gîte, si tu veux, je viens frapper à ta fenêtre à 3h du matin, tout ça. Je lui dis, ouais, vas-y, carrément, tu viens frapper à ma fenêtre. Et donc on rentre, puisque ma mère était très stricte, elle voulait pas. Donc à 11h, on rentre, nanana. Et puis je dis à Sophie, bon, il y a Tommy qui va venir, tout ça, il connaît le gîte, il va frapper au carreau et tout. Et donc à 3h du matin, bah, effectivement, il vient frapper. Donc je sors discrètement sur la terrasse du gîte, tout le monde dort, et il me fait fumer un pétard. J'avais fumé pas de pétard, enfin voilà, mais on n'avait pas de tabac, mais il avait un vieux cigare, donc il roule avec un vieux cigare, un vieux pétard tout pourri, tu vois. Et puis après, il semblerait qu'on ait fait l'amour, tu vois, mais je me souviens vraiment plus très bien, sur la terrasse, dans le jardin. Enfin, j'ai vraiment un vague souvenir, c'est pas... Je me souviens ni du plaisir, ni... Enfin, de pas grand-chose, quoi. Voilà. Mais c'était pas non plus désagréable, hein, c'était pas... Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est le lendemain. Donc lui, il est parti. Après, il s'est cassé. Donc ça, rétrospectivement, c'est pas terrible non plus, puisque du coup, je me suis vraiment retrouvée toute seule le lendemain, un peu... Bon, en fait, j'ai fait l'amour, on n'a pas mis de préservatif. Là, il faut que je le dise à maman. C'était un peu ça, quoi. Et donc là, je l'ai dit à ma mère, parce que je flippais, parce que je me disais, putain, mais le sida, l'enfant, enfin, tout, quoi. Et je me suis pris une bonne paire de claques en disant, mais ma fille, il n'y a que les putes qui font ça. Voilà. Et ça, ça m'a bien marqué. Et donc, je pense que j'ai eu une sorte de honte forte. Et c'est l'été où après, je suis partie vivre chez mon père. Parce que je suis saturée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première relation sexuelle. Voilà. Oui, ma mère donnait des claques. Voilà. Elle giflait. Elle faisait assez peur. Elle fait assez peur, ma mère. Elle a des yeux bleus très puits. Donc quand elle s'énerve, c'est... Et puis il y a une sorte de... Elle sort d'elle-même, quoi. Mais il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Mais elle m'avait même jamais dit « faut se protéger ». Enfin, si tu veux, il n'y avait jamais eu d'apprentissage de ça. Après, sûrement que je devais l'avoir entendu. Enfin, voilà, on le sait comme ça, tu vois. Mais du coup, non, on n'en a jamais vraiment parlé. Elle m'a toujours dit qu'il ne fallait pas prendre la pilule, que c'était de la merde. Pour autant, j'ai pris la pilule parce que j'avais de l'acné. Enfin bon, non, il n'y a jamais eu d'accompagnement. Freestyle, quoi. Donc, chez papa, j'avais 15 ans, j'arrive au lycée. Et là, il avait une maison qui était faite de telle sorte qu'il avait son appart au-dessus, moi en dessous. J'avais mon entrée séparée. Et il y a une copine qui est venue vivre avec moi, et je suis partie à Nîmes, du coup. Donc j'étais en Picardie et mon père habitait à Nîmes, donc gros écart. Et là, j'ai commencé le lycée. Bon, ben, sexe, drogue et rock'n'roll, c'était parti, quoi. Voilà. J'ai eu beaucoup d'amoureux. Après, je suis sortie avec Yann quand je suis arrivée, qui m'a fait découvrir la fellation, enfin, tout ce truc comme ça. Enfin, c'était vraiment l'ouverture, quoi. Donc. Après, c'était n'importe quoi. On fumait des pétards, on dormait à 4-5 dans les lits. Donc, ça se tripotait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment... Même un peu limite, parce qu'il y avait des couples. Donc, du coup, tu vois, tu te réveillais. C'était aussi un peu glauque, quoi. Même si, moi, je l'ai pas mal vécu et tout. Mais je sais qu'il y a eu des histoires pas terribles, je trouve. Rétrospectivement, tu vois. Sur le coup, ça me choquait pas du tout. Mais on était défoncés, quoi. Enfin, tu vois, voilà, donc... Et donc après, bah, pendant que j'étais avec Yann, j'étais très amoureuse de Jérémy en même temps. Enfin, après, je suis sortie avec Vincent. Alors là, c'était une belle histoire parce que j'étais son premier amour, sa première amoureuse. Donc c'était chouette d'être la première histoire de quelqu'un. Et puis après, il y a eu. Putain, je me sens plus. Ah non, après, j'étais à Amiens. Ah oui, parce qu'après, je suis remontée dans le nord. Là, je suis tombée amoureuse de Mathieu. Après, je suis partie à Rennes pour suivre Mathieu. Mathieu m'a larguée, il est sorti avec ma meilleure amie. Là, je suis montée en Belgique. En Belgique, j'ai rencontré, je crois que le plus bel homme avec lequel je suis sortie, qui s'appelait Geoffrey, mais qui était en fait schizophrène, et je trouvais la relation très difficile. Et en fait, j'ai compris après qu'il avait vraiment des problèmes. Mais il était beau comme un dieu, quoi. Franchement, c'était James Dean, quoi. Il était vraiment magnifique, quoi. Et puis après, je suis sortie avec Florent. Et donc là, je suis redescendue à Marseille et j'ai rencontré Florent. Et après, Florent... Mais ça n'a jamais vraiment duré. On s'est installé avec Florent à Marseille. Puis après, ça s'est terminé. Je suis montée à Paris. Et puis, j'ai rencontré un autre mec. Et puis, voilà. Moi, j'étais pas à l'aise avec moi-même. En fait... ce qui se passe, c'est que... Sur fond de tout ça, j'ai fait des troubles du comportement alimentaire pendant longtemps. En fait, à partir de 13 ans. Donc en fait, j'étais quand même fondamentalement quelqu'un de c'est mal dans sa peau, parce que du coup, j'étais anorexique jusqu'à 18 ans. Et après, j'ai commencé à me faire vomir et à découvrir les joies de la boulimie et de se faire vomir. Enfin, du coup, il y avait des périodes où j'étais avec toutes ces histoires qui étaient sûrement des façons de se... Je sais pas, de séduire, mais du coup, il y avait un truc aussi... je m'en fous, quoi, je me gâche, enfin, je me... Voilà, tu vois, il y a une dépense énergétique, un truc, et puis je voulais être sauvée, enfin, tout ça, quoi, un mélange de trucs assez compliqués. En fait, j'ai décidé de m'en sortir toute seule en 2011, quand j'en pouvais plus, et que j'étais à Paris, et que là, je me suis dit, en fait, je vais aller me faire hospitaliser, deux jours. Donc j'ai été à Sainte-Anne, spécialisée dans les troubles du comportement, enfin, de tous les problèmes psychologiques, machin. Et donc, c'était un vrai pas pour moi, parce que ce qui s'est passé, c'est que pour entrer à Sainte-Anne, il faut écrire une lettre de motivation. Et donc voilà, donc j'ai été internée deux jours à Sainte-Anne. En même temps, je faisais un master de mise en scène à Nanterre. Et donc, et là, l'hospitalisation de jour, c'était quand même 5 rendez-vous par semaine. Donc ça rythmait ma vie, c'était ça. Et à partir de là, j'ai commencé à rentrer dans un processus de guérison. À partir du moment où j'ai commencé à me soigner, j'ai commencé à l'avouer et à le dire. Enfin, c'est ça aussi qui s'est passé. Et à oser en parler. Enfin, après, ma coloc à Paris, mes amis le savaient. Voilà, ils savaient cette problématique. Ma famille le savait, mais n'en parlait pas. Mais en tout cas, moi, comment je vis ça? Moi, je suis dans une détestation de mon corps, qui existe encore maintenant, mais qui est quand même moins forte et qui m'handicape moins. Avant, c'était vraiment handicapant. Et qui tend vers un désir de rétrécissement, de disparition, voilà. Et donc ce truc aussi dont je me rends compte aussi maintenant, qui s'appelle la dysmorphophobie, où tu ne te vois pas, en fait. Tu ne te vois pas. Voilà. Donc moi, par exemple, je me dégoûte. Il y a vraiment un truc comme ça. Je dégoûte, ça me dégoûte de mettre mes mains sur mes cuisses. Tu vois, je me dis, oh mon Dieu. Alors, quand je suis en période de crise, tu peux imaginer que la sexualité, c'est compliqué, parce que du coup, l'autre, c'est, oh, vas-y, mais en fait, là, je te dégoûte. C'est pas possible que tu me touches, là, et que ça t'excite. En fait, c'est pas... Donc ça conduit à soit... en fait, tu vas dans des comportements extrêmes où, vas-y, défonce-moi, et tu vois, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je suis dégueulasse. Enfin, voilà, donc il y a des extrêmes comme ça qui se sont côtoyés pendant longtemps et qui s'apaisent doucement. Du coup, j'ai jamais rencontré de personne qui soit quelqu'un d'équilibré ou de... Ah, allez, ça veut rien dire équilibré, mais qui pose un cadre rassurant. Tous mes copains, ça a toujours été des alcooliques. Taiseux, alors que moi je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre, qui a besoin de parler, qui a besoin. Des alcooliques taiseux, artistes, musiciens ou je sais pas quoi, tu vois, voilà. Ça va un petit peu mieux là, mais c'est quand même des problématiques qui sont toujours là. Mais ça va un peu mieux. Je pense que j'ai progressé et j'ai été vers des choses moins fragilisantes pour moi, même si c'est quand même là. Si je dois faire mes amoureux. Florent était alcoolique et Florent il parle pas, il est bègue, enfin voilà. Après Florent, il y a eu Laurent. Mais Laurent, il était pas du tout taiseux. Par contre, il était alcoolique et borderline. Et après Laurent. Ah non, il y a eu Fred. Fred, donc le copain de mon père. C'est la seule personne rassurante et de toute mon existence. Le seul amour, mais complètement rassurant et. Oh, c'était bien! Puis en plus, c'était vraiment sugar daddy, quoi, tu vois. Il t'amène à l'hôtel, champagne tous les soirs, enfin, c'était vraiment bien. J'ai un copain, là, Patrick, qui a rencontré une nana il y a pas longtemps. Et donc là, je le vois, il est en amour, quoi. Il est dans le premier truc, il est trop... et j'adore, je trouve ça génial, quoi. Mais en fait, je me dis, quelque part, tu vois, là, en ce moment, en train de travailler sur le spectacle et tout... Je suis pareil, je suis dans cet état de... à la fois sur les nerfs, à la fois sur un truc de... Ça m'excite, ça me fait peur, mais en même temps, il y a plein de désirs, il y a plein de choses. Donc, en fait, j'ai l'impression que donc être amoureux, c'est à la fois pour moi cet état-là, cet état premier de la découverte de quelque chose, ou du désir de découvrir pour la première fois quelque chose, tu vois, de cette excitation-là. Et en même temps, après, dans la relation amoureuse, c'est plus ça qui est en jeu. Je veux dire, quand tu restes avec quelqu'un longtemps, t'es pas tout le temps amoureux, quoi. Enfin, t'es pas tout le temps dans cet état-là, quoi. Donc après, c'est autre chose qui se met en place. Mais pour autant, je pense que ce qui te nourrit, ce qui peut nourrir ta relation, par exemple, c'est d'être amoureux de plein d'autres choses à côté. Tu vois, d'être amoureux de ton travail, d'être amoureux d'une joie, d'une rencontre, d'un truc, voilà. Et ça peut nourrir ta relation, voilà. Oui. Je dis ça, et en même temps, Par exemple, j'ai dit d'une joie, d'une rencontre. Moi, j'arriverais pas à vivre les relations libres ou tu vois, où la... ça, je pourrais pas parce que avec mon passif, j'ai besoin de trop de sécurité. Enfin, tu vois, je pourrais pas. Voilà, j'y arriverais pas, même si j'aimerais bien pouvoir y arriver, mais j'y arriverais pas. En fait, moi, je suis patiente si je suis rassurée. J'ai l'impression d'être une gamine, en fait. J'ai juste besoin d'être rassurée. Ce qui me manquait, je pense que c'était des mots. Et tu vois, d'un seul coup, j'ai dans ma tête cette chanson. C'est fou ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Tu vois, de Piaf. Car je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quitter pour toujours. Et cette chanson, c'est les mots d'amour, ça s'appelle. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui me manquait, c'était des mots, peut-être tout bêtement, des mots d'amour. Tu vois, des mots rassurants, quoi.
Si je te dis non,
c'est définitif.
Octobre 2023. Je m'appelle Guillaume et j'ai 37 ans. Ma première relation sexuelle, elle est à 24 ans. Parce qu'il y a ce truc-là de dire je veux être sûr qu'en face, elle est OK sur le moment qui se passe. Et il y avait encore ce schéma-là, je veux être sûr que si je couche avec, c'est la femme de ma vie. Et ce qui fait que pendant très longtemps, pas de relation sexuelle. Enfin, j'entends avec quelqu'un d'autre. Pour autant, il y a la question des pulsions internes dans mon corps qui depuis ado, est là. Et donc, il y a un espèce de débat interne de dire ok, j'ai des pulsions, mais je veux pas en faire n'importe quoi, pas n'importe où, pas avec n'importe qui. Et du coup, ça, ce schéma-là, en fait, c'est prolongé jusqu'à des moments où, entre guillemets, j'ai dealé avec moi-même. Sur la masturbation tout seul, sur après du porno, comme ça, en tout cas, vivre cette sexualité et ses pulsions, mais de solo. Et après, tout un délire, tout un fantasme qui s'est créé dans ma tête de scénario, mais où que je vivais seul, entre guillemets, dans ma tête et par internet, on va dire, pour élargir, jusqu'à des moments où j'ai mis des annonces sur des sites où il y avait en gros des annonces de sans lendemain. Et au début, c'était vraiment un fantasme dans le sens où j'écrivais vraiment à des gens, à des gens qui me répondaient, mais je. En fait, au final, je me suis toujours trouvé des excuses pour dire ah mince, on peut pas se capter, nanana. Et jusqu'à un moment où j'ai eu une réponse et où les. En fait, du coup, parce que j'avais mis pour ces annonces, des annonces pour des nanas, et en fait, sur le site, ils disaient en gros recherche homme, recherche femme ou recherche couple. Et donc, j'avais fait une annonce femme et une annonce couple. Et en fait, il y a un soir, j'avais 24 ans, où il y a un couple qui me répond. Donc pareil, je fais genre... Parce qu'il y a la pulsion aussi qui me fait dire, bah tiens, vas-y, lance-toi. Mais j'avais toujours cette peur où je trouvais une solution. Et en fait, là, ce couple-là, pareil, c'est une envie qu'ils ont. Mais ils sont pas du tout habitués à ça. Et donc, ils me disent... Enfin, je trouve une excuse en disant, ah, c'est compliqué, demain je me lève tôt ou autre. En semaine, et du coup, ils me disent bah, clairement, on sait pas si on retentera. En gros, si ça se fait, ça se là et potentiellement jamais. Du coup, en fait, j'ai pas trop le temps de réfléchir, vu que je suis quelqu'un qui réfléchit pas trop. En fait, je me lance là-dedans. Et donc, ma première fois est avec un couple, ou c'est leur première fois. Moi, je leur dis que bien sûr que j'ai l'habitude avec les couples, alors que c'est ma première fois tout court. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que je joue un personnage, je suis là-bas. Prends l'apéro, je suis complètement tranquille. Je dis vraiment au couple en disant « Mais on y va au rythme que vous voulez. » Clairement, je leur sors ça pour dire « Moi, ça me laisse le temps, c'est très bien. » Et voilà, il y a un moment donné où ça se lance. Je pense qu'il y a plein de choses qui jouent entre eux qui font qu'ils ne sont pas du tout à l'écoute de ce qui se passe pour moi. Je pense qu'en fait, il y a énormément, par exemple, pendant la soirée, le mec et la nana qui se regardent en mode « Est-ce que c'est OK ?» Enfin, je l'interprète du côté de « Est-ce que c'est OK pour toi ? Est-ce que c'est OK pour toi ?» Donc, ils se regardent l'un l'autre en disant « Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on continue cette soirée de cette manière-là » Donc, moi je ne suis pas du tout dans l'œil du radar. Je me gère moi. Et il y a plein de choses, voilà. Donc on prend l'apéro comme tout apéro à trois personnes. Et justement, où à un moment, je ne me rappelle plus du tout lequel des deux. Je crois que c'est un mec qui dit bon, ben voilà. Enfin, en gros, on lance des hostilités. Et où il se rapproche de sa femme à l'embrasser. Et où je me rapproche. Je suis vraiment dans un truc de me dire bon, ok, je le sens comme ça. Je vais faire un mimétisme aussi du gars. Et ça démarre comme ça. Commence à se déshabiller sur le canapé en bas. Et ouais, je sens quelque chose qui est de l'ordre de la l'interrogation en eux, et ce qui fait que c'est très timide, et que du coup je colle à cette timidité en ayant le discours de « non mais je vais à votre rythme ». Et moi en fait ça me permet juste de coller à le rythme et de faire entre guillemets pareil quoi. Mais c'est effectivement très fou, j'ai vraiment des flashs de cette soirée. Parce qu'on finit du coup par monter dans leur chambre, tout ça. On est tous les trois tout long. Il y a juste un moment, le mec qui se barre aussi sur la fin. On va continuer. Moi, j'y vais. Et à ce moment-là, je sens la nana aussi qui continue, mais justement qui est plus à l'aise pour continuer. Et au bout d'un moment, pareil, je lui dis, pas de souci, parce que j'éjacule pas. Et je lui dis, mais en fait, il n'y a pas besoin que j'éjacule. D'une, parce qu'en fait, je suis tellement en satellite que je ne suis pas convaincu à un moment donné qu'on aurait duré 6 heures de plus, que ça aurait changé grand-chose sur le fait que j'éjacule. Et aussi, toujours pareil, de me dire, en fait, si ce n'est pas OK pour toi, enfin, on n'est pas là pour un final imposé. Et donc, je rentre, parce que du coup, donc, je faisais mes études à Toulouse à l'époque. Je rentre, parce que ce n'était pas à Toulouse même, je rentre en voiture, il y a 25 minutes de route. Et dans la voiture, je suis en mode sidéré de ma soirée, en fait. Je ne comprends pas. Et le lendemain, je suis à mon école. J'étais en formation là-bas, je suis à mon école. Et dans ma tête, cette soirée était comme si, genre, j'ai fait un rêve la nuit. Le matin, je me réveille, mais il ne s'est rien passé. Je ne sais pas si eux ont eu d'autres soirées de ce type-là, mais j'en ai aucune idée. Et puis voilà, il y a eu cet élément de digestion pendant un moment, de me dire qu'est-ce qui s'est passé, qui suis-je aussi, parce que je l'ai vécu, et il y a un truc qui a aussi soulagé de pouvoir avoir passé cette étape-là, qui forcément sexuellement aussi est plaisante, parce que c'était cool en fait, cette soirée elle a été chouette, mais ouais, entre guillemets, le couple a fait sa soirée, moi j'ai fait ma soirée, on était au même endroit, mais je pense que voilà, l'expérience et ce qui passait dans nos têtes a été en parallèle, on s'est jamais croisé quelque part. Et ce qui a fait que ça, c'était très bien pour moi. Et après, du coup, c'est aussi ce qui m'a permis de déclencher d'autres tentatives, d'autres rencontres, d'être plus clairement dans des rencontres libertines. Je suis pas sûr que ce soit ce que je renvoie, par exemple, la question du libertinage quand les gens me rencontrent. Et aujourd'hui, j'en parle très facilement. Je l'ai pas complètement dit à mes parents. J'ai dit à mes parents que ça m'arrivait de rencontrer des gens sans lendemain.
25 octobre 2023, Émilie, 44 ans.
Les infos que j'ai pu avoir, c'était essentiellement dans des revues de jeunes filles, sur les... Du coup, c'était pas forcément sur le sexe ou l'amour, mais en tout cas sur le fonctionnement du corps, sur le mode d'emploi des Tampax. Voilà, j'ai dû aller chercher les infos un peu toute seule, à vrai dire. Non, la famille, c'était à la fois tabou et à la fois complètement tordu. Donc, on parlait pas de ça. J'ai grandi dans une famille avec un climat incestuel. Donc voilà, avec des incestes agis, pas forcément sur moi. Et encore là, des fois, je me demande si, mais c'est pas très franc, quoi, tu vois. Mais en tout cas, clairement, un climat comme ça, ouais, où les limites de l'intime, elles sont brouillées. Et moi, physiquement, je pense pas que j'ai eu d'atteinte physique, mais des psychologiques, si, clairement. Il y a eu tout un tas de situations qui étaient complètement inappropriées, en fait. Et donc ça, du coup, ça influe pas mal sur le psychisme.
J'étais assez tardive, je crois, sur le sujet. J'ai eu peu de copains. Enfin, voilà, à l'époque au collège où tout le monde avait un petit copain, pour moi, c'était compliqué. Enfin, je savais pas trop qu'en foutre, quoi. Mon premier baiser, je devais avoir 14 ans. Et c'est le collège, donc t'as toutes les copines qui te déboulent dessus. Après, voilà, alors c'était comment? Et donc moi, j'ai répondu, c'était mouillé. Et personne n'avait la ref de Rain Man. Et voilà, ça faisait un peu un blanc. Mais après, non... Au final, mon vrai copain avec qui il y a eu une relation sexuelle, j'avais 17 ans. Je suis restée 2 ans avec. Ah, il avait quoi? Il avait 2 ans de plus que moi. Il était en maths sup dans le lycée où moi j'étais. Et donc voilà, c'était les grands. Et ça devait être un pote d'un pote, un truc comme ça. Comment ça s'est fait, je sais plus exactement. Si c'était un jour de l'an, je crois. Mais voilà, il n'y a pas eu de... pas eu de relation sexuelle tout de suite, il a bien voulu attendre que je sois prête pour ça. Et la première expérience en tant que telle, je trouvais ça super incongru, en fait. Ouais, je trouvais qu'il y a quelque chose d'incongru dans le fait qu'il y ait une partie d'un corps de quelqu'un d'autre qui rentre dans le tien, enfin, il y a un truc... Ouais, je trouvais pas vraiment de mots, à part incongru, tu vois. C'était étrange comme expérience. On va dire que quelque part il m'a un peu formé entre guillemets, dans le sens où lui c'était pas sa première fois, qu'en plus c'était un mec et il avait des idées et des fantasmes et une nana assez malléable en face. Donc ouais, c'était la découverte, quoi. Donc on a essayé des trucs. Je suis retombée sur un gars qui était sur la même période estudiantine, voilà. Et là, c'était l'amour avec le grand A, un truc de ouf. Il vivait aux États-Unis parce qu'en fait, son trip c'était les avions. Donc en fait, les licences étaient beaucoup plus abordables là-bas qu'en France. Et donc voilà, il était parti vivre là-bas. Donc j'ai passé 2 ans. À faire la navette entre les États-Unis et la France, en fait, pour aller voir ce mec-là. En fait, c'est un gars que j'ai retrouvé à l'époque où j'étais sur Paris, où j'étais chez mon père, et donc je sais plus pourquoi il était en France à ce moment-là, il était sur Paris, et de bouche à oreille, enfin bref. Et donc en fait, on a passé une soirée ensemble, où on a tchatché toute la nuit, on a fini la nuit ensemble, et le lendemain, il repartait, en fait. Et la relation a commencé comme ça, avec à l'époque Internet, c'était les balbutiements. On s'écrivait beaucoup, on s'envoyait des mails avec le truc qui met une demi-heure pour démarrer. Et voilà. Et voilà, on s'envoyait des CD aussi, des choses comme ça. Donc il y avait beaucoup de relations à distance, en fait. Et peut-être que je suis allée aux États-Unis peut-être un an après cette première nuit, quoi, en fait. Et tous les échanges qu'il y a eu entre-temps. Et après, il y a eu des périodes où c'était plus rapproché, mais au final, j'ai dû y aller 4 ou 5 fois sur 2 ans. Donc je crois que j'avais fait le calcul, sur 2 ans, on a eu 6 mois de... tout cumulé, 6 mois de présence physique. Pas mal de choses de l'ordre du fantasme, et puis aussi, surtout, comme c'était une relation à distance, il y avait tout cet effet-là de manque et de retrouvailles qui jouait beaucoup, en fait. Et puis en plus, le rapport de temps, parce que à l'époque, donc Internet, c'était le début, quoi. Donc c'était la lettre. Donc la lettre, il faut le temps qu'elle traverse l'océan, qu'elle arrive jusqu'à ta porte, machin, et que ça reparte dans l'autre sens. Donc il y avait tout un temps, en fait, entre les échanges. Et en même temps qu'il laissait justement le temps de dire les choses, de prendre le temps de répondre. Voilà, et puis un terrain de dialogue qui était vaste. En fait, on pouvait vraiment parler de beaucoup de choses. Donc ça faisait quand même... Puis je pense qu'il y avait une part complètement peut-être fantasmé aussi sur ce mec qui était pilote aux États-Unis, quoi, tu vois. donc voilà, c'était le grand envol qui s'est terminé par un retour chez maman avec mes valises. Ma grande rivale dans cette histoire, c'était l'aviation. C'est un mec qui était franchement, qui est toujours passionné de ça en fait, et qui donc s'il y avait une rivalité, c'était plus à ce niveau-là en fait, et où sa passion a toujours été sa ligne directrice, et c'est quelque part aussi ça, je pense, qui a mis un terme à l'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment j'en avais ras-le-bol des allers-retours et de mon statut de touriste, en fait. Que dans la mesure où le projet, c'était qu'on fasse le tour du monde ensemble, au gré du boulot, machin, qu'on fasse des gosses au milieu, voilà. Et à un moment, je lui dis, mais sinon, peut-être ce serait plus simple qu'on se marie, en fait. Et moi, j'étais pas pro-mariage plus que ça, je m'en tapais un peu, mais bon, là, c'était pratique. Et avec ce mec-là, ça me faisait pas peur, quoi. Et sur le coup, il m'a dit oui, mais en même temps, on sentait une réticence. Et puis au bout de 2 mois, je me suis dit, bon, attends, il y a un truc. Voilà, je sens une réticence. Et il fait, ouais, effectivement. Et du coup, ça remet un peu en perspective l'histoire, quoi. Du coup, et c'est là, en fait, que j'ai rompu. Je me suis rendu compte des années après, qu'en fait, l'histoire n'avait pas été vraiment terminée, quoi. Et que. Ouais, peut-être 15 ans après la rupture, elle finit par acter le truc que cette histoire était vraiment finie, en fait. Et c'était resté comme, le grand A, quoi. Et quelques temps après, j'ai rencontré le père de ma fille, en fait, qui avait déjà 3 gamins, et avec qui je suis restée 8 ans, du coup, et avec qui j'ai eu une fille. Donc là, c'était vraiment l'optique d'une construction familiale. C'était un pote de ma voisine. pas forcément quelqu'un qui m'attirait à la base, mais il a un côté très, très joueur. C'est un turfiste, il aime bien parier et il y va, quoi. Donc il a fini par m'avoir. donc il avait déjà 3 enfants avec une précédente nana. Donc on s'est rencontrés tous les deux à un moment où on avait tous les deux les ailes pétées, en fait. Et je pense qu'on s'est reconstruit un peu ensemble, jusqu'au moment où finalement, reconstruite, c'était en fait, ça me parlait plus, cette histoire, quoi. Et même si on avait fait un enfant ensemble, donc ça a été difficile de quitter l'idée de la famille. Mais ouais, j'étais en train de me faner. J'étais en train de me faner complet dans cette histoire, quoi. L'avant-séparation a été super lent et difficile. Parce qu'on avait fait une gosse ensemble et que c'était pas une décision légère, quoi. Quand j'ai fini par prendre... Enfin, je me suis tapé une double otite quand même, hein, pour... pour pouvoir entendre ce que je voulais pas entendre, tu vois, que cette histoire était finie. Donc quand j'ai fini par rompre, en fait, tout de suite j'ai rencontré quelqu'un d'autre, en fait, qui avait rien à voir avec ça. Et là, pour moi, c'était le deuxième grand A de l'histoire.
Sur la place de la sexualité dans une relation, à quel point, quand c'est pas là, ça peut être une source de conflit. Quand c'est trop là, ça peut être un facteur d'aveuglement. Et comment aussi dans les... je sais pas comment dire. Cette sorte de différentiel de frustration entre les hommes et les femmes. Et ces fameux trucs de... est-ce qu'on a tous les mêmes besoins? Est-ce que... Enfin, tous ces trucs-là, quoi. De toutes mes relations, il n'y a qu'un seul mec qui ne m'a pas fait sentir ça. Et je l'en remercie. Que c'est quelque chose qui se vit à deux. Et que s'il y en a un qui n'est pas OK, ben, c'est pas OK, quoi, en fait. Et que si tu as des besoins, ben, tu te démerdes avec ta pogne. Tu ne nous fais pas chier. Voilà. Mais comment, quelque part, ce besoin devait être assouvi par l'autre, absolument. Ben non, en fait. Ben voilà, avec le père de ma fille, clairement, sur les dernières années, c'était, j'avais plus spécialement envie, en fait, quoi. Et pour lui, c'était frustrant et difficile, ce que je peux comprendre. Mais du coup, ça crée une tension, une espèce d'attente, où quelque part, et donc il n'y a pas que dans cette histoire-là que j'ai retrouvé ça. Ben, tu sens que l'autre est frustré. Toi, t'as pas forcément envie. Quelque part, il y a des fois où tu vas aller te motiver. Mais du coup, ça donne un goût bizarre au truc. Et, ou alors, ou au contraire, ça va sentir la frustration de l'autre. Ça va être tellement... ça te fout une telle pression que quelque part, ça va te donner encore moins envie. Donc, il y a tout ce jeu-là qui a pu être compliqué. La notion de... dans d'autres histoires, la notion du viol conjugal, c'est un truc qui est intéressant parce que la limite, elle est très mince parfois. Et justement, dans quelle mesure cette histoire de frustration, besoin, on n'est pas quelque part dans... Même moi, en tant que nana, quelque part, je vais... cautionner quelque part ce mouvement-là, en fait, tellement il y a des choses qui sont inscrites loin, des fois on a l'impression, quoi, dans ces rapports-là et dans cette notion de l'homme a des besoins et la femme doit les assouvir, quoi. Alors je le plaçais pas forcément en tant que devoir. Après, il y a des moments, en fait, où quelque part ça générait une telle pression qu'en fait c'était quelque part plus simple de coucher, hein. Comme ça faisait redescendre la pression, il y avait un peu la paix dans les chaumières, que de rentrer en résistance, en fait. Mais du coup, c'est un peu moche, quoi. En fait. Après, ça dépend. Dans mes premières expériences, clairement, il y a un truc que je mets sur l'ordre du viol, finalement. Maintenant, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, mais que je reconnaissais pas forcément à l'époque, quoi. Sur un truc très con, hein. C'était le soir de son anniversaire, en fait, et il était bourré comme un coin, et il voulait baiser le soir de son anniversaire. Et moi, j'avais mes règles, et on était chez ses parents, et j'étais pas motivée. Et je fais, bah non, et voilà. Mais du coup, comme lui, il était à 4 grammes, le ton a commencé à monter, et j'étais jeune à l'époque, donc je voulais pas que les parents entendent, quoi, en fait. Tu vois, j'assumais pas le truc. Donc j'ai fini par lâcher, en fait. Et le lendemain, c'est limite lui qui était là, qui était mal, en fait. Mais j'ai l'impression de t'avoir violé. Enfin, il y a un truc. Et moi, qui étais là, lui dire non, mais je devais en avoir un peu envie quand même et tout, parce qu'en fait, je voulais pas regarder qu'en fait, c'était moche ce qui venait de se passer, quoi. Et on est restés encore ensemble pendant un moment. C'était plus sur le début de l'histoire, quoi. Donc, des fois, la limite, elle est pas... Hein, on sait... Personne sait trop où la foutre, quoi, en fin de compte. Et même dans la... Je dirais dans la... Dans la psyché féminine. Des fois, on a du mal. Enfin, en tout cas... dans la mienne, j'ai pas toujours su où était... Où était la limite, quoi. Qui m'a fait un déclic sur le fait qu'il fallait arrêter cette relation. Clairement, à un moment, j'ai eu une pulsion de meurtre, en fait. Il était tellement con, tellement à tout pourrir, tellement plus possible. C'est un moment, enfin bref, on sortait d'une pièce et il y avait un escalier, quoi, qui redescendait à l'étage, au rez-de-chaussée. Et là, d'un seul coup, j'ai eu envie de le pousser, qu'il s'éclate en bas et qu'il ferme sa gueule, en fait. Et c'était clairement une pulsion de meurtre. Et là, j'ai reconnu ça en moi et j'ai fait « Ok, là, faut arrêter, en fait. Là, ça devient pas bon du tout, quoi. » Et après, il a fallu être stratégique parce que je pouvais pas faire ça du jour au lendemain, sinon il m'aurait mis trop la misère. Donc, il s'est passé 6 mois, je crois, un truc comme ça, entre ce moment-là et le moment où, enfin, j'ai pu sortir de cette histoire. Donc là, c'était pas le corps, mais en même temps, cette espèce de pulsion, elle vient du bide, quoi. Tu vois, il y a un truc, c'est vraiment de l'ordre de la survie, en fait. Les histoires que j'ai pu avoir après, quelque part, inconsciemment, je suis allée, je pense, vers des gens dont j'étais pas susceptible de tomber trop amoureuse, histoire de pas me faire mal. Concrètement, je crois que c'est encore en cours de réparation, tu vois. C'est pas encore... je suis célibataire, déjà, pour commencer, donc c'est un bon, point de référence. Ouais, dans la relation amoureuse, justement, cette histoire de confiance, voilà, c'est un truc sur lequel je bosse, qui va vachement mieux, mais qui a été clairement abîmé, quoi. Re-aimer derrière ça, vraiment dans toute la puissance, j'y vais un peu avec précaution. Mais dans une relation amoureuse, ouais, un truc équilibré, quoi, et sain, en fait, sain, truc sain, ce serait bien. Clairement, après, ça passe, en ce qui me concerne, par le travail sur soi, déjà, pour commencer, quoi. Dans le sens où je pense qu'on attire un peu en miroir... Je pense qu'aussi on attire des blessures complémentaires, en fait, tu vois, où notre système va répondre à celui de l'autre et va créer un troisième système qui va être le système du couple, qui est issu de la rencontre de ces deux personnes avec leurs systèmes respectifs, quoi, en fait. Et en ce qui me concerne, quelque part, tant que je suis pas en axe, je vais pas rencontrer quelqu'un qui est en axe, en fait. Ouais, c'est ça, tant que je marche en boitant, je vais pas attirer un danseur, quoi, tu vois. Je vais rencontrer quelqu'un qui boite au même rythme que moi, quoi. Donc voilà, là, mon job en ce moment, c'est de... Je fais ma rééduque, je vais aller danser. Et à ce moment-là, on verra ce qui se passe, quoi. Mais sinon, ouais, c'est ce que je vis, c'est quelque chose de sain, d'équilibré, voilà, où il y a un dialogue réel. Et un équilibre.
Ne me quitte pas, 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 ne me pas, 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 ne me,
vous avez entendu Faire le plein d'amour, une émission spéciale proposée par les menstruels. On les retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez retrouver les archives de Gymnastique Sonore sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.